Radio Okapi. Grande interview.
Avec le même plaisir, pour le même devoir, grande interview reçoit pour vous aujourd'hui le professeur Baniakour Louapé, professeur d'université, politologue et ancien juge à la Cour constitutionnelle. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs sujets d'actualité, entre autres les tractations sur la répartition des postes ministériels entre le FCC et CACH et les dernières nominations à la tête de la SNCC et la GECAMINE. Toute l'équipe en place pour vous servir, Michel Kifinda, Jeannot Matouaki, la mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangassa, au micro Kélin Kouté, bienvenue à tous. Professeur Baniakou, bonjour.
Bonjour, madame.
À quelques jours de la fin de la session parlementaire prévue pour le 15 juin, au cours de laquelle le gouvernement congolais doit être investi, il n'est toujours pas là. Comment vous analysez ce retard dans la publication du gouvernement?
Madame, merci beaucoup. Je pense qu'à mon avis, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que le gouvernement, tout au moins, venait de démissionner. Ça, c'est un détail. Ça dit que le gouvernement en place, qui était en place, était en train d'exercer pleinement et il n'avait pas à se plaindre. Je crois qu'il y a une ou deux semaines que le gouvernement vient de démissionner et donc il faut compter maintenant à partir de maintenant voir quel est le temps que ça va prendre jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Donc, je crois que le problème, à mon avis, le plus important, c'était comment le gouvernement qui était en train d'exercer pleinement les fonctions, comment on pouvait concilier ça avec les objectifs que le président s'était fixés. Je pense que c'est là où le problème peut se poser. Puisqu'ils assuraient l'exercice de fonctions d'un autre régime, d'un autre mandat, d'un autre programme, et comment est-ce qu'ils pouvaient intégrer, puisque là ils exerçaient pleinement, comment ils pouvaient intégrer le nouveau programme du président, du nouveau chef de l'État. Je pense que c'est là où s'est posé le problème. Bon, ce qui concerne, si le président de la République a lui-même pris la responsabilité de laisser ces gens exercer, c'est que quelque part, il estimait qu'il avait le contrôle de l'affaire.
Les négociations entre la coalition CACH de Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila sont au point mort, selon nos sources. Les deux camps n'arrivent toujours pas à s'accorder sur la répartition des postes au sein du futur gouvernement. Est-ce que c'est parti pour un blocage?
Madame, je comprends bien que vous avez de très bonnes sources. Moi, je n'en ai pas malheureusement. Mais si on se fie à vos sources, s'il y a un blocage, la première des choses, c'est de voir comment se passe la répartition. Je pense qu'il y a une petite confusion qui s'est installée dans la tête congolaise. La répartition se passe de la manière suivante. Le poste ministériel de souveraineté, comme on l'a dit, ça relève de la compétence exclusive du chef de l'État, puisque l'article 69, il dit que le président de la République est le garant. On ne dit pas le gouvernement ou la famille politique, on dit le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité des territoires, de la souveraineté nationale, du respect des traités et accords internationaux. Si on prend le ministère qui sont considérés comme des ministères souverainetés, c'est-à-dire la défense, on voit bien qu'il y a un problème de l'intégrité du territoire. Si on prend les affaires étrangères, on voit qu'il y a le respect des traités. Si on prend la justice, je crois que ça peut se partager entre indépendance et souveraineté, puisque là, c'est lui qui rend la justice, en fait, il rend en quelque sorte un peu l'indépendance. Et puis, l'intérieur, c'est tout ce qui concerne l'intégrité aussi du territoire. Alors, ça, c'est des ministères où le chef de l'État est le seul garant. C'est l'article 69. Il ne partage pas avec le gouvernement, il ne partage pas avec... Le gouvernement peut être gardien, mais c'est lui le seul garant.
Cette épineuse question des postes régaliens, revendiquée par les deux camps, augure aussi des tractations houleuses, hein, quand même, entre les deux plateformes. Mais là, ils sont en coalition, professeur. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas concéder?
Non, ben, je crois que les termes que vous les dites, comment peut-on concéder sa garantie? La garantie du chef de l'État, c'est une compétence qui lui revient par la Constitution. Et comme je vous l'ai dit, il ne peut pas, ça ce n'est pas concédé. S'il arrivait qu'il concédait, ou qu'on l'obligeait à concéder, c'est un coup d'État institutionnel, madame. Ça s'appelle un coup d'État institutionnel. C'est-à-dire, on a privé au chef de l'État une partie de ses compétences qui lui sont reconnues par contre. Ça arrive aussi dans certains pays, lorsqu'on dit le président de la République, par exemple, les militaires prennent le pouvoir. Ils peuvent dire, bon, nous prenons la défense, les affaires étrangères, ou nous prenons tel... Ça, alors, dans ces cas-là, c'est un coup d'État institutionnel. Mais si vraiment nous nous trouvons dans un état de droit, le président de la République... Les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution ne sont pas à négocier. Ça, c'est mis à part. C'est lui qui assume.
Et si c'est lui-même qui a accepté?
Ah ben, s'il accepte, il s'est fait un coup d'État. Ah oui, puisqu'il ne va pas pleurer demain, hein, lorsque, par exemple, le ministre de la Défense, il dit que moi, la ligne que j'exécute, ce n'est pas la ligne qui vous revient. En ce moment-là, ça entre dans les matières de l'exécutif. Donc, il ne peut plus, il est en collaboration. Tandis que pourquoi on évite ces ministères en ce qui concerne la justice, la défense, les affaires étrangères, l'intérieur, puisque ce sont des matières très sensibles où le chef prend en dernier, évidemment après consultation, il ne peut pas le faire sans consulter le gouvernement ou sans consulter d'autres institutions qui sont concernées, mais... c'est lui qui en dernier ressort tranche. Alors s'il se dit lui-même, voilà, je cède la défense ou je cède. Alors il se fait lui-même un coup d'État institutionnel. Il se fait lui-même. Il peut assumer aussi, ça arrive. Il peut assumer.
Coup d'État institutionnel, oui, mais ils sont en coalition. Est-ce que vous pensez que le FCC irait en désaccord de ce que le chef de l'État déciderait?
Mais madame, c'est étonnant, notre gouvernement, notre État, c'est l'État qui a le plus connu de gouvernement d'union nationale. Hein? Et encore cette fois-ci, nous avons la chance, puisque c'est passé par les élections, même si ces élections n'étaient pas correctes, dans une certaine mesure, mais au moins, c'est passé par les élections. Or, avant, on avait même des gouvernements d'union nationale où on débauchait les opposants qui n'étaient même pas élus, qui n'avaient aucun statut particulier, qui étaient débauchés et qui partageaient le pouvoir avec, par exemple, une certaine majorité ou bien le président de la République lui-même. Mais donc, on le sait que dans ces domaines, vous n'avez pas des exigences vraiment qui dépassent le bon entendement. Il y a du bon sens là-dedans, madame. Parce que si vous ne pouvez pas, d'abord, si on posait la question, alors qu'on remette à table, comment est-ce que eux, ceux qui veulent prendre tout, quelle est la majorité? Qui rentre là-bas faire la propagande, une deuxième propagande, sans corruption, hein, sans encombrage, qui fasse une deuxième comme ça. Le président Naka, par exemple, dit, voilà, si vous m'empêchez de faire ça, alors les élections pour qu'on ait une véritable assemblée nationale légitime. Moi, je pense que ce n'est pas un bon jeu. C'est malsain d'abord, puisque ces gens qui réclament des postes, ils n'ont pas été mandatés pour venir être des ministres. Ils ont été mandatés pour aller faire des lois.
Là, vous parlez des députés.
Ah oui.
Mais il n'y a pas que les députés qui réclament des postes ministériels au sein du FCC.
Bon, en commençant par eux. Puisque les autres, hein, évidemment, il y a, comme on dit, vous avez raison, il y a toute une pression politique. Mais je me dis que... Et ça, je le préviens, madame, avec beaucoup de responsabilités. Cette fois-ci, le Congo tombe dans une crise de ce genre, c'est-à-dire une crise des personnes qui se répercute en une crise d'institution. Nous sommes partis pour la gloire. Et ça, je mesure bien mes mots. Alors, il ne faut pas vraiment mettre toute une nation en péril, tout simplement puisqu'on veut occuper des postes et que parfois on occupe avec beaucoup de complaisance et d'incompétence.
Professeur, est-ce que ce n'était pas prévisible, cette situation?
Madame, moi je vais prendre l'hypothèse la plus mauvaise. Supposons que le président de la République ait été réellement élu et que dans l'hypothèse, deuxième hypothèse, que le président de la République sortant a soutenu son candidat, c'est-à-dire Chadari jusqu'au bout, et que c'est par les faits de preuve qu'on a désigné maintenant le président en fonction. Est-ce qu'il serait obligé de partager des postes? Puisque l'hypothèse que nous prenons, c'est comme nous le disons, non, puisqu'on l'a nommé, il n'a pas été élu, et puis c'est l'autre, et moi je peux vous dire, avec beaucoup de certitude, le président sortant a été loyal vis-à-vis de son candidat. Donc, en aucun instant, il a nié ou renié son candidat, jusqu'au bout. Donc, c'est quelque part l'effet de preuve qui ont fait que ce soit le président actuel. Que ça a été Fayoulou ou bien quelqu'un d'autre, mais ça a été quelqu'un d'autre, autre que celui que le président de la République avait soutenu jusqu'au bout. Voilà une information. Et donc, faites-en ce que vous voulez, mais moi, je soutiens que ce partage-là, il n'y a aucun autre élément que du bon sens. Le président de la République a fait du bon sens. Et il peut se dire qu'il n'a pas la maîtrise de l'armée, il n'a pas la maîtrise de toutes les forces politiques qui ont réellement exercé, il n'a pas la maîtrise de tous les paramètres sociaux, économiques. Il peut se dire, allons avec modestie. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui prend la modestie, on doit le punir pour ça?
Et donc, il n'est pas obligé de
il n'est pas obligé.
De former,
moi, je pense que...
de partager les postes avec le FCC.
Non, non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. D'abord, si c'était... Je vous donne l'hypothèse, puisque moi, je prends cette hypothèse, bien qu'elle n'est pas probante, mais je prends cette hypothèse. Supposons que le président sortant, qu'il a été loyal vis-à-vis de son candidat jusqu'au bout. Donc, le président, que ce soit Fayoulou ou que c'est l'autre qui est sorti, il est sorti par les faits de preuve. C'est-à-dire, on a trouvé qu'on ne pouvait pas faire passer un autre candidat que celui qui est passé. Alors, si on est dans cette hypothèse, en quoi on l'obligerait nécessairement à ce qu'il puisse se soumettre, hein? Donc, il est modeste, et je pense que le président sortant, il est aussi modeste, ça il faut le dire, puisque je pense que les agitateurs sont ailleurs. Et ceux qui connaissent les scènes politiques congolaises, ils savent qui les sont et qui vont répondre lorsqu'il y aurait vraiment un peu de crise très très dangereuse.
Alors, notre actualité, professeur Baniakou, ce sont ces nominations à la tête de la SNCC et de la GKMIL. Au FCC, on estime que le chef de l'État a violé la Constitution, que ces nominations sont illégales.
Madame, bon, je dois avoir le courage, si je ne veux pas en faire un commentaire, de vous lire l'article qui est concerné. L'article 81 de la Constitution, on dit sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de ses fonctions, de leurs fonctions et les cas échéants révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Alors moi je suis en train de me poser la question. Est-ce que il existe un Conseil des ministres qui est tenu, puisque à ce que je sache, les autres sont en train d'expédier les affaires courantes. Le premier ministre, il n'a pas encore été investi. Alors, ce qui peut être comme un cas d'urgence, est-ce que dans ce cas d'urgence, on aurait dit s'il y a une urgence, par exemple, pour le fonctionnement de la SNCC ou bien de la GKMIL, est-ce qu'il fallait attendre ça? Mais alors, ce qu'on doit demander, c'est quelle est l'urgence qui s'est posé pour qu'on puisse arriver à cette nomination. Donc, il s'agit de ce problème. Et de un. Et de deux, on doit se poser la question, est-ce que la SCC et la GKMIL ou la SONA sont encore des sociétés d'État, c'est des entreprises publiques, ou bien des sociétés commerciales? Puisque moi, ce que je vois ici, le point 6 de l'article 81, sont concernés par les dispositions que je viens de citer, ce sont les mandataires de l'État dans les entreprises publiques, dans les entreprises et organismes publics, excepté le commissaire aux comptes. Cela veut dire que il s'agit de nominations dans les entreprises. Ici, la GKMIL, on m'a dit, je crois, depuis la réforme de 2006, la GKMIL est devenue une entreprise commerciale. La SONAS, c'est une entreprise commerciale. La SSC, c'est une entreprise commerciale. Donc, je pense, s'il y avait de petites remarques à faire, c'est celle de se demander est-ce que ces entreprises publiques méritent encore qu'on nomme des administrateurs et qu'on nomme des comités, des membres des comités de gestion et des conseils d'administration, alors que ce ne sont plus des entreprises publiques, ce sont des entreprises commerciales.
La question, professeur, est-ce que l'acte posé par le chef de l'État est illégal?
Moi, je dis que s'il y a une urgence, ce ne peut pas être illégal. C'est lui, le président seul, qui peut juger de l'opportunité de cette urgence.
Vous êtes aussi analyste, vous observez ce qui se passe en RDC. Vous pensez qu'il y avait urgence vraiment de faire des restructurations au sein de ces deux entreprises?
C'est le président seul qui peut nous le dire, et respectons la fonction. C'est seul qui peut le dire, respectant la fonction. S'il dit qu'il y avait urgence, et que cette urgence, peut-être plus tard, lorsqu'on remarque que, ça c'est, je donne l'avantage du doute, lorsqu'on remarque que le choix était tellement mauvais que ça n'a pas donné de résultats dès le départ, là on lui dira, est-ce que c'était urgent? Mais lui, il n'est pas tenu à nous dire les raisons de cette urgence. Je pense que c'est seul l'État où il déclarait un état d'urgence qui veut, il peut aller soit au Parlement et ou alors demander à la Cour constitutionnelle. Mais pour tous les autres cas d'occurrence et d'urgence, le président seul respectant cette fonction.
Alors revenons au gouvernement. Est-ce que vous pensez que avant le 15 juin, on pourra avoir un gouvernement?
Je le souhaite, madame, bien que je ne sois pas concerné moi-même. Ce n'est pas la fin du monde, on peut faire une session extraordinaire pour ça. Et surtout que le premier ministre actuel, je pense que c'est un homme suffisamment modéré, il ne se presse pas à porter la veste du premier ministre sans qu'il y ait le contenu. Je crois qu'il s'agit maintenant de rechercher le contenu. Par contre, madame, moi, ce que j'aurais cherché, j'aurais voulu que les gens sachent, c'est qu'il y a eu un gouvernement qui a exercé pour un temps. Il y a eu des gouverneurs qui ont exercé. Maintenant, le temps que nous sommes montés de consommer, presque 6 mois, quel est l'audit? Puisqu'on nous a dit que le président de la République, il combat la corruption, il combat le détournement. Est-ce qu'il n'y aurait pas priorité, surtout que nous entrons en partenariat avec le Fonds monétaire, avec les autres institutions de Bretton Woods, est-ce que ce ne serait pas plus prudent que le gouvernement ou la présidente de la République initie, puisqu'il a tous les instruments, il a l'inspection de finances, il a le commissaire aux comptes, il a tous même les audits indépendants. Donc moi je pense que la préoccupation c'est celle-là. Moi je ne vois pas quelle est la préoccupation particulière qui ferait, puisque dans l'entretemps, moi qui détourne, et s'ils détournent, c'est qu'ils n'ont pas peur d'un audit ou n'ont pas peur d'un autre contrôle.
Donc, on peut se passer d'avoir un nouveau gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas une urgence.
L'urgence, c'est l'audit, madame. L'urgence, c'est l'audit. Puisque nous supposons que si le président de la République a inscrit ça dans son carnet et que tout le monde dit qu'il continue à avoir soit de corruption, soit de détournement, c'est que c'est là où il faut commencer. Sinon, on va nommer de nouvelles personnes et on n'aurait pas résolu le fond du problème qui est celui des gaspillages, de détournement au niveau des entreprises publiques ou au niveau de l'État.
Ah, donc, vous estimez qu'il faudra commencer d'abord par auditer ces entreprises avant de passer
Tout en respectant, madame, puisque nous risquons d'avoir les mêmes têtes qui ont été vraiment les pilleurs, nous risquons de les avoir en toute impuissance devant nous. Et d'ailleurs,
certaines opinions ont déjà réagi par rapport à la reconduction de monsieur Yuma tête de la Chekamine.
Ben oui, je vous dis, madame, je pense que le président de la République, je ne suis plus la Cour constitutionnelle, mais le président de la République, entrant comme sortant, je pense qu'ils ont pris soin de déclarer leur patrimoine. Et je pense que les ministres qui sont sortis, qu'ils ont pris soin de déclarer, puisque dépasser 30 jours, c'est-à-dire un mois, ça devient un cas pénal. Lorsqu'on est entré, on a déclaré, et qu'on est sorti, on n'a pas déclaré, avec tous les immeubles qui poussent, c'est après un mois. Pour le premier ministre qui vient de quitter, je crois il y a une semaine, qui vient de démissionner, il a un mois. Dans le cas où le président de la République est sortant, la même manière, il avait un mois après l'investiture pour qu'il déclare son patrimoine.
On le dit toujours comme ça, mais est-ce que c'est vraiment suivi si on a déclaré ou pas?
Ah oui, mais la dernière fois, on a, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a déclaré et ceux qui n'ont pas déclaré ont dû à justifier, puisqu'on peut donner toujours des raisons pour un ministre qui a beaucoup, en entrant il y a eu moins, et que dans l'entêtant au cours de l'exercice il en a eu beaucoup, il a beaucoup de temps pour justifier, puis cette justification peut entraîner aussi dans les affaires. Au cas où vous donnez de mauvaises justifications, qu'on trouve l'une ou l'autre justification avec des documents faux, ça devient encore plus compliqué. Donc, on peut prendre le temps. Je crois que le législateur a donné 30 pour rendre ça contraignant. Mais si on se justifie, on a eu le cas au niveau de la Cour constitutionnelle où certains ministres malades ou bien ils n'étaient pas au pays, qu'ils ont dépassé les 30 jours. On a dit à justifier, mais en tout état de cause, la déclaration du nouveau patrimoine, de votre patrimoine doit être faite. Je pense que le président sortant l'a fait et le président entrant, il l'a fait.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, grande interview, on reçoit pour vous aujourd'hui le professeur Baniakou Louapé, professeur d'université, politologue et ancien juge à la Cour constitutionnelle. Alors, puisque vous évoquez la Cour constitutionnelle, professeur Baniakou, il y a cette question sur les recours qui traînent encore à la Cour constitutionnelle. On se pose des questions, pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça?
Je n'ai pas l'habitude de protéger les institutions ou les personnes qui sont en erreur, mais dans le cas de la Cour constitutionnelle, si on fait foi à ce qu'on nous a dit, il y a à peu près 1000 recours. Si pas plus. Et cette cour a été faite, c'est encore une négligence, sans conseiller référendaire. C'est-à-dire, les juges, les 9 juges, et moi d'ailleurs le président, puisque qui n'est pas tenu à participer dans une des chambres, les 8 juges qui restent, et on m'a dit qu'il y a même un juge encore qu'on a demandé de ne pas participer, c'est-à-dire il reste 7 juges. Si 7 juges doivent délibérer sur 1000 cas sans conseiller référendaire et les cabinets sont réduits puisque dans chaque cabinet il y a à peu près 6 sur les 6 au moins 2 qui sont juristes, on fait le calcul, donc il y a 14 personnes plus les 7 juges, ils sont 21 à délibérer sur des questions sur 1000 cas. Je pense que la compréhension est là. Donc la faute n'est pas à la Cour, la faute à ceux qui n'ont pas donné de moyens à ce que cette Cour ait de conseillers référendaires. Ils sont 60, ils devraient être 60 au total.
Et c'est qui devait donner les moyens? L'État?
L'État, oui. L'État. On a insisté pour que, puisque là on prend les choses à la légère. Mais nous avons le personnel, en fait les magistrats, beaucoup. Il suffisait tout simplement d'avoir une volonté. Et ce n'était même pas nécessairement le président de la Cour, mais ils étaient nommés sur proposition de la Cour, bien sûr, par le président de la République. Donc, je crois que là, il y a eu une négligence énorme. Et ce qui fait que tout ce qui se passe au niveau de la Cour actuelle, ça peut trouver justification, ça. Bien que parfois, ce n'est pas le cas.
Vous avez travaillé à la Cour constitutionnelle, professeur Baniakou. Certains candidats accusent, pas tous les juges, certains juges de corruption. C'est pourquoi les dossiers de certains candidats traînent. Est-ce que c'est vrai que cette question de corruption se pose quand même au niveau de la Cour constitutionnelle?
Madame, par réserve. Ce devoir de réserve m'interdit pendant 2 ans de faire des commentaires sur la Cour constitutionnelle.
Vous avez fait quand même un commentaire tout à l'heure par rapport
à... On est en faveur. je parlais de généralité, mais je n'ai pas parlé de ce qui se passe. J'imaginais tout simplement qu'il y a un problème. Non, madame, là, je crois que la faiblesse... Vous savez, les Congolais, c'est le mal des Congolais, c'est son silence. On murmure. Moi, je donne l'argent... Mais l'instant après, d'abord, il y a maintenant des bics, il y a des stylos où on peut enregistrer ce qu'on donne. Et ces députés sont allés sans qu'ils prennent des précautions. S'ils donnent l'argent, ils ne savent pas s'il va, oui ou non, réussir. Donc, ils devraient prendre aussi des précautions pour avoir des preuves. Je le conseille de trouver plus de preuves que de crier sur la corruption.
Alors, professeur Baniakou, 4 mois depuis que l'actuel président est en fonction, comment vous jugez les climats politiques en RDC?
Oui, le climat politique, si je parle avec beaucoup d'honnêteté, le climat politique est à la détente. En tout cas, il n'y a pas de point de tension. Le seul point de tension qui concerne actuellement, c'est comment le président se met en mouvement, comment il amorce ses actions, puisque ça semble ne pas être le cas. C'est comme s'il y a une inertie. Et j'imagine que s'il y a une inertie, c'est peut-être de par le poids et du nombre et le déficit de ce qui doit être fait par les personnes qui sont là. Mais sinon, moi, je ne trouve pas de points. Du moins, entre, par exemple, au niveau des institutions, j'ai comme l'impression que les institutions marchent bien, en harmonie. Je ne dirais pas bien, mais ils marchent en harmonie jusqu'ici. Il n'y a pas de quoi. Au moins que demain, que quelqu'un cherche une crise, bon, alors là, on verra par la suite. Mais jusqu'ici, ça va plutôt bien.
Ça va plutôt bien. Mais la population, quand même, a l'impression que sans un gouvernement, tout est bloqué.
Oui, madame.
C'est l'impression que vous avez
non,
aussi.
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression puisque les charges... vous savez, les gens vivent plus de projections. On s'est dit, à la fin du mois... Les sacs de foufou coûtaient autant, maintenant ils coûtent autant. Donc je pense que cet exercice, les gens constatent que de moins en moins, ils ont des revenus et que de plus en plus, avec tous les laxismes qui peuvent exister, même s'il n'est pas réel, mais qui peut exister, les gens se disent qu'ils sont perdus, les biens augmentent.
Pour ça, il serait important d'avoir rapidement un gouvernement.
Oui, puisque ça peut jouer sur le plan psychologique que les gens se rendent compte. Vous savez, quand on est dans un climat, il y a aussi de la spéculation. C'est cette spéculation, il n'y a qu'un gouvernement actif qui peut stopper. On peut arriver à un glissement en termes d'inflation. Bon, jusqu'ici, le franc congolais a quand même été maintenu, ce qui est presque miraculeux. Mais je pense que ce n'est pas un motif pour se dire que non, on peut continuer pendant 8 mois, 9 mois.
Alors, nous sommes à la fin de l'entretien, professeur Baniakou. Votre dernier mot.
Nous sommes un des pays qui a connu le plus de crises. Il ne faut pas en fabriquer, surtout au gré de vagues. Ici, la crise elle doit trouver ses raisons. Ce n'est pas puisqu'on voudrait coûte qu'avoir de fonctions ou de ministères de souveraineté, on voudrait se les partager. D'abord, c'est même indécent que d'en parler. Et puis, personne ne vous comprendra que vous déclenchez une crise ainsi bas des répartitions de postes ministériels.
Merci, professeur.
Je vous en prie, madame.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais le professeur Baniakou Luapé, professeur d'université, politologue et ancien juge à la Cour constitutionnelle. Merci à Michel Kifinda qui a réalisé cette émission. La mise en onde a été assurée par Dieudonné Nyangassa au micro Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.